Bonjour, nous démarrons le deuxième cours de cette série consacrée à des clusters biologiques. Évidemment, une grande famille de ces clusters, donc je rappelle, hein, ces assemblages multinucléaires de d'ions métalliques. On a vu la dernière fois donc, les clusters fer-soufre dont on a bien compris qu'ils étaient très abondants dans les systèmes biologiques, avec tout un tas de fonctions. Et aujourd'hui, nous allons discuter de familles d'enzymes fer-soufre, aussi bien pendant l'heure qui suit qu'avec Sandrine Aulagnier-Tchoudun, ce que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. Je la présenterai tout à l'heure. Donc justement des enzymes fer-soufre qui ont potentiellement des intérêts comme cible thérapeutique. Ça sera la constante de la matinée. Dans le cas du sujet que je vais traiter ici, en plus, parce qu'on commence un peu à comprendre la chimie qui est mise en œuvre par les systèmes enzymatiques dont je vais parler. Il y a une chimie qui est d'une très très grande complexité, qui a été très très récemment décortiquée, à la fois par des outils de spectroscopie très pointus, de la biologie structurale, des analogues de substrat, des inhibiteurs, du marquage isotopique. Enfin, on a un bel exemple de ce qui a pu être traité ces dernières années. Vous allez voir, les articles datent entre la fin début des années 2000 et beaucoup à la fin des années 2000, jusqu'à 2011-2012. Et notamment, il y a quelques cas où on trouve de la chimie organométallique dans le monde vivant, très très peu. Un exemple classique, c'est l'adénosylcobalamine et la vitamine B12, qu'on connaît depuis très longtemps. Lorsque je parle d'hydrogénase, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dans les années précédentes, parce que j'ai souvent parlé d'hydrogénase, mais j'en reparlerai dans un autre contexte cette fois-ci, enfin plus tard dans l'année, enfin au mois de février. La mise en œuvre de liaisons fer-carbone est quelque chose de très très rare en biologie. Et là, on va voir un exemple dans lequel ceci est au cœur de la chimie qui est mise en œuvre par ces enzymes. Alors, ce groupement, ici, isoprène, est présent dans tout un tas de molécules biologiques. Vous en avez une série qui est représentée ici. Voilà, vous avez ici les quinones de la chaîne respiratoire, hein, ubiquinone ici, vitamine Q, ménaquinone, vous avez la vitamine E, vous avez ici le cholestérol. Vous avez ici des molécules présentes dans les membranes de certains organismes. Vous avez ici le bêta-carotène. Donc vous avez tout un tas de molécules extrêmement importantes qui dépendent de l'introduction de ce groupement isoprène. Ici, vous voyez, c'est assez évident, ça l'est moins là-dedans, mais c'est des réactions de couplage de ces groupements. Et donc, toute la question qu'on va discuter, c'est comment ces molécules sont synthétisées. Parce qu'évidemment, c'est très très important quand il s'agit de synthétiser des molécules aussi essentielles que le carotène, le bêta-carotène, le cholestérol ou l'ubiquinone. Voilà. Et ce n'est pas l'isoprène, celui que je vous ai montré, mais c'est l'isopentényl pyrophosphate ou le méthylallyl pyrophosphate qu'il faut synthétiser pour accéder à toutes ces molécules, stérol, dolichol, triterpène, caroténoïdes, ubiquinone et également modification d'ARN de transfert. Donc ce sont ces molécules qui doivent être synthétisées et qui ensuite sont incorporées. Alors bon, simplement à nouveau, toutes ces molécules jouent des rôles essentiels donc comme composants membranaires, hein, ce sont des chaînes grasses qui sont collées à des à des molécules. Également dans des transports d'électrons, dans de la signalisation cellulaire, dans de la régulation de l'expression des gènes, dans la dégradation des protéines, enfin dans tout un tas de processus. Donc effectivement, c'est assez important de se poser la question de la biosynthèse de ces molécules-là. Et vous allez voir que c'est assez complexe et en même temps, ce n'est que tout récemment qu'on commence à comprendre l'ensemble de la problématique. Alors, il y a une voie qui est connue depuis très très longtemps, depuis longtemps, qui est celle qui est présente chez les mammifères, chez les plantes, dans les mitochondries des plantes, et chez les archées, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle la voie mévalonate. voici donc l'acide mévalonique, qui est un intermédiaire. Donc vous avez toute une série d'enzymes qui conduisent ici, vous voyez, à l'isopenthényl pyrophosphate et au diméthylallyl pyrophosphate. Il s'avère que cette voie a été bien décortiquée. On connaît l'ensemble des enzymes qui participent à la biosynthèse de ces deux molécules. Ce n'est pas de la chimie très très compliquée. Elle est particulièrement connue, cette voie, parce que notamment l'HMG coenzyma réductase est une cible thérapeutique extrêmement importante, et notamment les fameuses statines dont on parle ont comme cible cette voie qui conduit à l'acide mévalonique. Et donc, cette voie-là a été tout à fait étudiée. Les statines, je vous rappelle, qui contrôlent la biosynthèse du cholestérol et qui est utilisée dans le cas de pathologie cardiovasculaire. Plus récemment, on a découvert, enfin pas nous, mais un certain nombre de chercheurs, notamment des chercheurs à Strasbourg, ont contribué de façon extrêmement importante à cette découverte. La découverte d'une autre voie de biosynthèse de ces deux molécules, à nouveau, isopenthényl diphosphate et diméthylallyl phosphate. Alors, oui, vous voyez ici, ce sont des isomères, hein, donc c'est des molécules qui s'interconvertissent. Il y a une enzyme qui fait ça, IDI, ici, isomérase. là aussi, donc, toute une voie nouvelle de biosynthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette voie, c'est la voie de la plupart des bactéries, de parasites, qu'on trouve dans les chloroplastes de plantes, dans les cyanobactéries, les algues, etc. Et évidemment, ce que vous constatez tout de suite, c'est que c'est une voie qui n'est pas présente chez l'homme. Et donc, tout de suite, c'est le cas recherché. Enfin, quand on vise de façon rationnelle une cible thérapeutique, pour éviter évidemment les effets secondaires, et c'est de trouver des voies métaboliques qui sont spécifiques de la bactérie, de l'agent infectieux, qui permet d'envisager des molécules qui tapent spécifiquement sur certaines de ces étapes, sans taper sur la biosynthèse de ces molécules chez l'homme, puisque l'homme a sa propre voie spécifique. Et les systèmes sont suffisamment différents pour qu'en effet, on puisse être très sélectif sur le plan de l'inhibition de la biosynthèse de ces molécules. Alors là, la chimie est beaucoup plus complexe. Alors c'est une voie de biosynthèse qui a été étudiée de façon très très détaillée parce que pour cette raison de ciblage thérapeutique, donc il y a tout un tas de ces enzymes-là qui sont étudiées de ce point de vue-là avec recherche d'inhibiteurs spécifiques, etc. Et ça passe par une biologie structurale extrêmement poussée. Pratiquement tous les... d'ailleurs, je crois que maintenant... toutes les enzymes de cette voie sont caractérisées sur le plan structural. Voilà, donc une recherche très intense sur ce domaine. Alors, il s'avère que les deux dernières étapes, ici avec des noms différents selon la littérature, mais plus récemment appelons-les ISPG et ISPH, font cette transformation, catalysent cette transformation du méthylérythritol cyclodiphosphate. Vous voyez ici une molécule cyclique avec une liaison carbone-oxygène ici. Et cette molécule subit un certain nombre de transformations qui commencent d'ailleurs par la cassure de cette liaison carbone-oxygène pour donner les molécules qui nous intéressent et qui sont donc ces fameux précurseurs d'isoprénoïdes. Voilà, donc une nouvelle représentation de cette voie de biosynthèse. Alors, en fait, les travaux les plus récents portent sur ces deux ISPG et ISPH, sur ces deux étapes, parce que c'était les dernières à être caractérisées sur le plan enzymatique, sur le plan mécanistique, sur le plan structural, bien après toutes les autres. Et donc, je vais, si vous voulez, discuter de la chimie de ces deux protéines, ISPG et ISPH. Donc, la première étape, c'est cette transformation donc, du méthylérythritol cyclodiphosphate en hydroxyméthylbutényl diphosphate. Vous voyez, il y a cassure de la liaison carbone-oxygène et il y a formation d'une double liaison ici. Alors, vous voyez, première information de type structural, donc c'est des résultats très récents, 2010-2012. Et observation, on le voit sur la structure, mais ceci était connu depuis quelques années. En effet, ces deux protéines, je les traite aujourd'hui parce que ce sont deux protéines fer-soufre. Ce sont deux protéines dont l'activité dépend absolument de la présence d'un cluster fer-soufre dans la protéine. Ceci avait été établi par différentes méthodes, des mesures de fer, de soufre, de la spectroscopie. Mais vous voyez, à la fin des années 2010, 2010-2012, donc apparaissent les structures aux rayons X qui donnent des informations évidemment tout à fait utiles à l'échelle atomique et qui permettent d'avoir une approche rationnelle peut-être du point de vue de la question thérapeutique. Tout de suite, on observe des choses intéressantes. Bon, c'est un homodimère, il y a une interface entre les deux monomères. Et on voit qu'il y a, pour chaque monomère, il y a deux domaines. Il y a ici un domaine de type, avec un fold, avec une organisation structurale classique, hein, qu'on appelle Tin Barrel, tonneau de type triose-phosphate isomérase. On en reparlera un peu tout à l'heure. Et puis, il y a un deuxième domaine qui est celui qui contient un cluster 4-fer-4-soufre. On a zoomé ici sur ce domaine. Et là, vous voyez, c'est un des exemples. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est un des exemples où le cluster fer-soufre. Donc, c'est un cluster 4-fer-4-soufre. Vous voyez, il y a 4 atomes de fer et de soufre. Et ce qu'on voit dans cette structure, c'est que les 4 sites de coordination des fers, les 4 liaisons à la protéine, sont occupés par 3 cystéines et ici un glutamate, le glutamate 307. Et ici, ça pose la question d'ailleurs de comment ça se passe, parce que si tout est bloqué, on ne voit pas comment un substrat peut réagir. Or, on sait qu'il y a une liaison fer-substrat. On sait que le substrat interagit avec le cluster. Donc, il y a probablement une libération d'un site de coordination. Il est possible que ce glutamate ici ait une certaine mobilité qui permet de dégager un site où le substrat viendra se fixer sur un atome de fer du cluster. L'autre information tout à fait étonnante, c'est on sait que le site du substrat, le substrat va se fixer ici, et le cluster 4-fer-4-soufre dont je viens de vous parler et qui est censé fixer le substrat est à une vingtaine d'angstroms de distance. Donc ça, c'est évidemment très très compliqué, c'est totalement impossible que cette structure reflète une réalité catalytique. Il y a à un moment donné un changement conformationnel extrêmement fort qui doit amener, d'une façon ou d'une autre, le substrat qui est ici à proximité du cluster 4-fer-4-soufre. Et ça, on ne sait pas encore très bien comment ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est la partie N-terminale. Donc c'est le site de fixation du substrat. Là c'est à nouveau le dimère complet. Donc ici, on a cette structure en tonneau bêta, des feuillets bêta qui vont accueillir le substrat. D'ailleurs, on voit que quand on regarde le potentiel électrostatique ici, on a une cavité positive. Ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'un substrat chargé négativement qui va venir se fixer ici. Et à l'entrée de cette cavité, il y a cet aspartate 81. Il y a de la mutagénèse qui a été faite, qui a l'air de jouer un rôle très très important. Dans la réaction, il y a des transferts de protons, donc ça pourrait jouer un rôle de transfert de protons. Voilà. Et évidemment, la troisième chose, c'est la nécessité d'un changement conformationnel. Vous voyez ici, le substrat pourrait se trouver par là, 20 angstroms de distance du cluster. Donc, est-ce que toute cette protéine est capable de... et stimulée par quel signal de venir s'approcher du substrat. Voilà. En fait, il y a deux familles de cette protéine ISPG. Il y a la famille ici dans laquelle vous avez la partie N-terminale et C-terminale qui sont accrochés de façon, les deux domaines qui sont accrochés de façon covalente. Et puis vous avez un autre cas qu'on retrouve chez les plantes, chez les parasites et chez certains pathogènes, dans lequel vous avez un second domaine de type A. C'est-à-dire qu'il est organisé sur le plan structural exactement de la même façon et en même temps, il n'y a pas du tout de conservation des acides aminés importants. Et la structure au rayon X de cette protéine a été également obtenue, où vous voyez le domaine B, donc le domaine 4 fer 4 soufre, le domaine de fixation du substrat, donc ça c'est le monomère qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus il y a une partie qui ressemble à A, et il y a même la fameuse interface des deux hélices, mais c'est quand même une seule chaîne polypeptidique. Donc il y a eu un phénomène d'évolution qui est un peu schématisé ici. Vous avez un domaine de fixation du substrat, un domaine de cluster fer-soufre qui se sont accrochés de façon covalente. Ici, c'est la zone d'interface, les deux hélices. Ensuite, il y a eu des systèmes dans lesquels B et A se sont fixés de façon covalente. On avait peut-être un système avec deux A et deux B, et puis il y a un B qui a disparu, et des mutations sont produites sur A, et on a fait un système. La question, c'est évidemment à quoi ça sert de faire tout ça, quel est l'avantage sélectif pour ces organismes d'avoir fait un système ISPG, qui contient un second domaine. Alors, si on veut avoir une approche un peu rationnelle de recherche de médicaments qui cibleraient ISPG, l'approche structurale est évidemment importante, mais l'approche mécanistique est également essentielle pour ouvrir d'autres possibilités au design de molécules qui pourraient être actives. Et dans ce cas-là, c'est aussi intéressant parce que la transformation de cette molécule en celle-ci n'est pas absolument évidente sur le plan chimique. C'est une réaction qui doit être catalysée, bien sûr, c'est ISPG qui la catalyse. On a besoin de protons et on a besoin d'électrons. Au cours des dernières années, il y a énormément de travaux notamment de spectroscopie, je l'ai indiqué, notamment spectroscopie magnétique, résonance paramagnétique électronique, ANDOR, HiSCR, évidemment tout ça avec du marquage. Donc ce sont, si vous voulez, l'ANDOR et l'HiSCR, ce sont des techniques de résonance paramagnétique à deux dimensions qui permettent de mieux caractériser les couplages entre les électrons et les noyaux qui ont des spins nucléaires en particulier. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Peut-être qu'un jour, je développerai un peu toutes ces techniques qui sont absolument essentielles, notamment à l'étude des métalloprotéines. Ce qui a été bien montré, c'est que on pouvait détecter des intermédiaires réactionnels, et dans tous les cas, ces intermédiaires réactionnels qu'on observait par résonance paramagnétique et électronique indiquaient une interaction entre le cluster fer-soufre et le substrat. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez un premier intermédiaire, vous voyez, bon, ça c'est un signal de résonance paramagnétique électronique qui indique qu'il y a un électron célibataire sur cette espèce. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir des idées sur l'état redox du système. Et ici, lorsque vous marquez le fer avec du fer 57, vous voyez en bleu des modifications. Donc ceci indique très clairement que ce que vous voyez, c'est bien le cluster fer-soufre. C'est-à-dire vous voyez ce qui se passe au niveau du cluster fer-soufre. Parce que le marquage au fer 57 a une énorme modification sur les spectres de résonance paramagnétique. Donc, en gros, vous voyez un premier intermédiaire à des échelles de temps très très courtes, et puis vous voyez un deuxième signal beaucoup plus tard, vous voyez quelques minutes de réaction. Alors, intéressons-nous au premier intermédiaire, qu'on appelle FESA. Il y a eu énormément de travaux là-dessus. Vous voyez, il a fallu. Voilà le substrat. C'est un substrat qui n'est pas évident à synthétiser. Néanmoins, les chimistes organiciens, notamment à Strasbourg, mais un peu partout maintenant dans les laboratoires qui étudient ce type de système, ont été capables de faire des synthèses de ces molécules marquées au carbone 13, spécifiquement dans la position 2 ici, de carbone 13 en position 3 ici, marqué au phosphore 31. Il y a également des marquages au deutérium. Enfin, tout ça est important parce que, justement, en changeant les atomes et en leurs isotopes, vous modifiez les couplages avec l'électron célibataire, celui qui permet de voir un signal RPE, et donc vous avez des informations sur la localisation de l'électron, sur l'interaction entre le métal et tel ou tel carbone ou tel hydrogène. C'est toute la logique. Vous voyez des résultats très récents. Et l'hypothèse de travail, c'est qu'il faut des protons pour ici protoner cet atome d'oxygène et ouvrir la liaison carbone-oxygène. Et puis, tout un tas d'informations venant de ces expériences-là montrent que l'atome de fer interagit avec cet atome d'oxygène. Et tout un tas de formules ont été proposées pour cet intermédiaire. Et finalement, c'est ce ferraoxétane ici, vous voyez, avec ce cycle à quatre atomes, dont un oxygène et un atome de fer qui est le fer du cluster 4 fer 4 soufre, qui est une structure assez originale, et toutes les données expérimentales s'accordent autour de cet intermédiaire réactionnel. Cet intermédiaire réactionnel, il vient donc d'une ouverture de cette liaison carbone H, l'ouverture du cycle, de la fixation du fer sur l'oxygène et de l'arrivée de deux électrons. Et donc c'est ce qui est résumé ici, si vous voulez. Donc vous voyez, le fer dans cet état-là n'a pas d'électron célibataire, il est silencieux en résonance paramagnétique électronique, c'est-à-dire si vous faites un spectre, vous voyez quelque chose de plat, il se fixe ici, cette interaction fragilise, à cause des propriétés acides de Lewis du cluster, fragilise la liaison carbone-oxygène, protonation, ouverture, c'est un carbocation. Et ensuite, le cluster donne deux électrons. Vous voyez, il y a un électron qui est arrivé d'une source exogène. Il donne deux électrons pour arriver à cette entité ici. C'est-à-dire que, vous voyez, ce plus devient moins et vient faire une liaison. Si vous envoyez deux électrons sur un plus, ça fait un point d'abord et un moins. Et si vous fermez, c'est-à-dire l'équivalent de ça, et vous fermez, ici, vous avez cette entité-là. Donc ça, c'est le premier intermédiaire. Euh, Le deuxième intermédiaire, eh bien, ce n'est pas un intermédiaire, c'est, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le produit de la réaction fixé au cluster. Donc là aussi, vous voyez le type de spectre en dehors qu'on peut analyser en montrant des couplages avec du carbone 13, avec du phosphore 31, enfin, etc. etc. Donc ici, on voit très bien que le signal qui est obtenu au bout de le signal donc, du deuxième dit intermédiaire, 45 minutes, vous voyez, le signal RPE, en fait, il est le même que celui que vous obtenez si vous mettez le produit lui-même de la réaction sur le cluster 4 fer 4 soufre. Donc ça, c'est une première indication que ce que vous voyez, en fait, c'est que la réaction est terminée, il y a le produit qui s'est formé, et il est toujours fixé sur le cluster 4 fer 4 soufre. Et là encore, voilà le type de structure que la spectroscopie suggère, avec une double liaison, donc carbone-carbone, et le fer qui s'accroche sur ces deux atomes de carbone. Voilà. Alors, ça, c'était une découverte quand même tout à fait importante. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on voit de la chimie organométallique, de la pure chimie organométallique sur un cluster 4 fer 4 soufre, c'est-à-dire la mise en œuvre de liaisons carbone-fer, et la première fois, à ma connaissance, qu'on voit une double liaison, une oléfine, s'accrocher sur un cluster, notamment par sur l'atome de fer dont la coordination a été libérée. Alors tout de suite, ça a suggéré des molécules particulières, enfin originales, qui pourraient aller se fixer sélectivement sur ce cluster et donc bloquer la réaction considérée, donc bloquer la synthèse de l'isopentényl diphosphate et du diméthylallyl pyrophosphate, qui sont donc les fameux précurseurs de toutes les molécules isoprénoïdes qu'on veut, dans certaines conditions, maladies cardiovasculaires, bloquées. Ça, c'est pour les statines, ou qu'on veut, dans le cas des bactéries, bloquer aussi pour annihiler leur virulence, leur pathogénicité, etc., etc. Et ça conduit à quelque chose qui, de mon point de vue, est très original, et qui est la recherche d'oléfine ou d'alcine comme inhibiteur de cluster fer-soufre. Et il s'avère que dans la recherche de ces molécules actives, eh bien, des molécules de ce type-là, voyez, avec une triple liaison carbone-carbone, qui en effet interagissent avec le cluster 4 fer-4-soufre. Là encore, je ne détaille pas les informations spectroscopiques, notamment de type paramagnétique électronique à une ou à deux dimensions, mais où on établit en effet que cette triple liaison a la capacité d'interagir avec un atome de fer du cluster. Et ceci donne des molécules qui commencent à avoir un certain intérêt, puisque ce faisant, et là vous voyez l'intérêt, c'est l'intérêt de la recherche du travail extrêmement précis sur le mécanisme enzymatique, parce que si on n'avait pas compris cette possibilité de faire interagir un double épi, une double liaison ou une triple liaison sur un atome de fer, on ne serait pas allé chercher ces molécules, et en ayant compris cela et en allant chercher ce type de molécules, on trouve des inhibiteurs qui sont encore peut-être encore trop loin, parce que bon, vous voyez, c'est pas loin du micromolaire, il faudrait faire mieux que ça pour un médicament, mais on a trouvé des molécules qui sont bien plus puissantes en termes d'effets inhibiteurs que tout ce qui était connu auparavant. Donc ici, c'est bon, voilà, une sorte de plaidoirie pour dire que la recherche de médicaments, c'est pas simplement une structure et puis lui coller dessus de façon virtuelle des milliers de molécules et puis attendre de voir qu'il y en a une qui s'accroche virtuellement. C'est aussi des analyses extrêmement pointues des mécanismes enzymatiques, y compris dans des cas comme ça qui sont très complexes et qui demandent des outils et des compétences quand même assez rares pour avoir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Voilà. Bon, le deuxième système, c'est un peu la même chose. Ce sont d'ailleurs les mêmes laboratoires qui ont attaqué le problème. Vous avez vu, on a réglé ce problème. On a ouvert ici et on a fait une sorte de déshydratation, hein, puisqu'il y a une liaison carbone-OH qui a disparu et il y a une double liaison qui s'est formée. Oui, j'ai pas tellement détaillé la fin, mais vous voyez, quand on est ici, là aussi, les propriétés d'acide de Lewis du fer, notamment dans cet état 3+, qui est très appauvri en électrons, a tendance à polariser de façon extrêmement forte cette liaison carbone-OH et donc de favoriser une rupture hétérolytique de cette liaison carbone-OH. C'est ce qui conduit, si vous voulez, à cette double liaison. Voilà. Alors, deuxième étape, ISPH. Ici, c'est c'est la liaison carbone-OH qu'il faut transformer en liaison carbone-H. Donc, c'est une réduction également. C'est une réduction à deux électrons. Alors, procédons de la même façon. Là aussi, vous voyez, un peu plus ancien, mais fin des années 2000, 2008-2009. Donc, on a des informations structurales sur cette protéine, ISPH. C'est une organisation assez intéressante avec trois domaines qui ont strictement aucune homologie de séquence. Vous voyez ici, quand on la regarde dans une direction, quand on la regarde dans la direction perpendiculaire, c'est une protéine qui est très plate. Et le cluster 4-fer-4 soufre est au milieu des trois domaines. Là aussi, c'est un cluster qui est fixé à la protéine par trois cystéines et un troisième ligand qu'on ne connaît pas, qui est peut-être un acide aminé de la protéine, ou qui est peut-être une molécule d'eau, ou qui est peut-être autre chose. Mais en tout cas, ceci conduit à une certaine instabilité du cluster qui fait qu'en général, il a tendance à perdre son atome de fer et que le plus souvent, dans les structures, ce qu'on voit, c'est des 3 fers, 4 soufres, par perte de cet atome de fer. Bon. Vous voyez, le cluster 4 fers, 4 soufres est ici. On voit une cavité qui permet l'accessibilité à ce 4 fers, 4 soufres. Et là aussi, les hypothèses de travail, c'est que ce 4-fer-4-soufre est un site sur lequel le substrat vient se fixer pour être transformé. C'est d'ailleurs cette interaction avec... Enfin, c'est une notion permanente. Si un métal est là pour catalyser une réaction, c'est qu'il sert à activer d'une façon ou une autre un substrat, et la seule façon d'activer le substrat, c'est qu'il y ait une interaction directe entre l'ion métallique et le substrat. C'est cette interaction qui modifie l'électronique du substrat et le rend plus actif pour la réaction mise en œuvre. Si les deux choses sont séparées, il n'y a pas de raison que ce substrat qui est stable par ailleurs soit transformé. Donc ça, c'est toujours la clé de le faire. Là aussi, il y a des recherches de mécanismes pour des recherches d'inhibiteurs. Une façon d'imaginer la chimie, c'est une hypothèse de travail. Vous voyez, à nouveau, vous pouvez raisonner que cette molécule qui est relativement simple, qui est petite et qui est relativement simple, sur le plan chimique, ça paraît assez naturel de penser que c'est cet hétéroatome, cet atome d'oxygène qui va se fixer sur le fer. Et effectivement, en 2010, il y a eu une structure aux rayons X de la protéine en présence du substrat et qui montre en effet cette liaison entre... Bon, c'est là qu'on voit la puissance de la biologie structurale, de l'analyse structurale cristallographique des protéines. On a ici, vous voyez, une très belle information sur l'atome d'oxygène fixé sur l'atome de fer du cluster. Et vous pouvez constater qu'il y a tout un réseau avec ses glutamates, une molécule d'eau, des thréonines, tout un réseau de liaisons hydrogènes qui vont assurer probablement des transferts de protons qui sont associés à cette chimie. Mais là, clairement, l'évidence est nette, il y a une liaison fer-oxygène. Ensuite, ce fer va accepter des électrons qui viennent d'une source d'électrons, d'une chaîne de transfert d'électrons, et va être le médiateur du transfert d'électrons à cette partie organique qui peut se traduire par une liaison, une cassure de la liaison carbone-oxygène ici pour donner éventuellement un radical. Vous voyez, ça va être un radical ici, donc un radical stabilisé par la double liaison qui est en alpha, donc un radical allyle, c'est assez classique. Et puis un deuxième électron qui peut conduire à un anion. Toutes ces entités potentiellement très instables et très réactives sont sûrement stabilisées par la présence du cluster à proximité, le radical et l'anion. Et évidemment, ensuite, il y a protonation. Et le substrat ici est transformé en ces fameux isopentényl pyrophosphate et diméthyl allyl pyrophosphate. Donc une chimie là qui est un peu moins compliquée que la précédente, mais qui a aussi été décortiquée par toutes les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'avère que cette fameuse cassure de la liaison carbone-oxygène, dans le même papier de PNS en 2010, les gens ont vu des cristaux qui, ayant subi les photoélectrons pendant l'irradiation, ont vu en effet des structures où le 4-fer-4-soufre est en présence, est en présence d'un intermédiaire dans lequel il n'y a plus d'atomes d'oxygène. Voilà, donc on peut penser que le mécanisme, en effet, je recommence, hein, le fer est un état fer 3 qui fixe l'atome d'oxygène. Vous avez un électron, il envoie cet électron ici, vous avez un radical intermédiaire, et ensuite ça évolue comme je l'ai dit. Alors, dans la littérature, je ne veux pas rentrer très lourdement dans les détails, mais il y a deux types de mécanismes que vous voulez voir, des mécanismes dans lesquels il y a en effet des intermédiaires radicalaires, mais qui n'ont jamais été vus, et puis des mécanismes dans lesquels on exclut la présence d'entités radicalaires. Donc ça, c'est quelque chose qui ressemble à la réduction de Birch. Donc vous voyez, vous avez arrivé d'un électron, cet électron réduit la double liaison, vous faites donc une double liaison, vous pouvez l'imaginer comme un biradical, point, point, vous envoyez un électron, donc vous avez un radical anion, point, moins. Cet anion permet l'ouverture de la liaison carbone-OH. Donc vous avez ce radical allyle intermédiaire, deuxième électron, un anion. Donc ici, il y a plusieurs radicaux, vous voyez, celui-ci, celui-là, qui sont prévus par le mécanisme. Et puis en fait, assez récemment, vous voyez, 2010-2012, à nouveau, des études du type de celles que j'ai indiquées pour ISPG montrent tout un tas d'intermédiaires réactionnels possibles. À nouveau, résonance paramagnétique électronique avec tout un tas de marquages au fer 57, au deutérium, à l'oxygène 17, de l'andor avec du marquage au carbone 13, au phosphate 31, au phosphore 31, etc. Enfin, c'est un boulot absolument considérable qui a été mis en œuvre avec des synthèses de marquage très sélectifs. Donc, c'est des années de travail de synthèse. Je ne vais pas détailler ni l'observation des couplages andor ici avec les différents isotopes de deutérium, phosphore, carbone, ni ceci. Mais tout ça pour dire que toutes les informations de type spectroscopique indiquent à nouveau que ce cluster 4-fer-4-soufre, donc maintenant de ISPH, pas de ISPG, mais de ISPH, est en effet capable de développer une liaison, une sorte de complexe pi, une liaison avec la double liaison, le double pi, du substrat, qui est cette molécule qui va subir la perte du groupement OH ici. Donc vous voyez ce type de liaison. Donc à nouveau, l'observation, pour la, enfin, je dis pour la première fois, mais cette première fois englobe à la fois ISPG et ISPH, cette observation que les clusters 4 soufre sont capables de mettre en œuvre une chimie qui est tout à fait originale, c'est-à-dire d'interaction avec des doubles pi. Un autre intermédiaire réactionnel a été obtenu. Ah oui, ici, cet intermédiaire là a été obtenu dans le cas d'une mutation particulière. Donc il y a un acide aminé E126 qui a été muté, qui, vous voyez, qui est celui-ci, qui évidemment joue un rôle très très important et qui a dû bloquer une étape, par exemple, de transfert de protons, qui a permis au substrat de se fixer et de rester fixé. Un autre intermédiaire réactionnel a pu être obtenu, qui a été obtenu soit sans excéder, enfin, en absence totale de réducteur, mais avec le cluster réduit, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de chimie stoichiométrique, ou bien par des expériences de freeze quench, c'est-à-dire de comment dire, de quench, enfin de piégeage par le froid d'un intermédiaire réactionnel, des techniques qui permettent d'arrêter la réaction à des temps très courts, et là en présence d'un excès de réducteur. Et là, il y a une autre espèce qui se forme. Là aussi, je ne détaille pas, n'analyse pas avec vous les spectres de résonance paramagnétique électronique. J'indique à nouveau tous les marquages qui ont été faits. Et là, c'est l'observation. Tous les marquages sont bien interprétés par une structure dans laquelle le cluster 4 fer 4 soufre fait une liaison fer carbone avec un groupement allyle qui serait, si vous voulez, l'équivalent de. Enfin, là, je ne devrais pas montrer ce mécanisme, mais je vous montrerai ce que c'est que l'allyle. Et donc, oui, ben voilà. Donc, le film de la réaction est ici. Hein, c'est vraiment très, très intéressant de le suivre de cette façon-là, afin d'être au cœur de la protéine et de regarder comment la chimie se met en œuvre sur un système aussi complexe. Et donc là, il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire tous les transferts d'électrons se font en permanence au sein d'entités où la liaison fer-carbone est maintenue d'une façon ou d'une autre, de sorte que le carbone n'est jamais insaturé, c'est-à-dire avec des radicaux ou des anions, mais on a tout le temps le contrôle par le métal. Et donc c'est une vraie chimie organométallique où, vous voyez, donc les électrons arrivent, on a cet intermédiaire qui s'accumule. Hein, vous voyez cette interaction avec la double liaison ici, qui s'accumule parce que probablement avec cette mutation, on a eu un blocage d'une étape qui aurait débobiné cet intermédiaire. Voilà le fameux le second intermédiaire allyle, ici avec cette liaison fer-carbone. Donc vous voyez, le premier intermédiaire est ici, enfin c'est un complexe cluster fer-soufre-substrat. Ici, le deuxième, celui que j'ai montré. Et ensuite, vous avez la transformation qui va jusqu'au produit. Voilà. Et ici, vous voyez qu'au moment où on passe d'ici à là, vous avez départ de cette liaison, cassure de cette liaison carbone-oxygène, départ d'une molécule d'eau que vous voyez ici. Donc cet atome d'oxygène était ici auparavant, ça se casse. Molécules d'eau, et ensuite on va jusqu'au produit. Voilà. Non, ça, c'est pas important. Donc là aussi, par la même démarche qui suggère que le mécanisme enzymatique reflète évidemment une capacité du cluster fer-soufre à interagir avec des carbones, et notamment des carbones insaturés. Et donc il y a eu tout un tas d'études, vous voyez, 2010, tout un tas d'études qui ont été menées. Sur des, notamment, des complexes, des substrats, oui, des molécules de type alcine, donc possédant une triple liaison. Donc vous avez tout un tas de molécules ici qui ont été testées. Voyez, vous arrivez à des... tout à l'heure, je devais être à 300 micromolaires en IC50. Donc ça, l'IC50, c'est la concentration de l'inhibiteur qui permet d'inhiber à 50% l'activité enzymatique. Vous voyez, ici, on est à 6 micromolaires et ici, on est à 0,45 micromolaires. Donc on commence à avoir des molécules qui sont extrêmement intéressantes. Excusez-moi, tout à l'heure c'était du nanomolaire, 330 nanomolaires, donc on était au niveau du 0,3 micromolaire. Donc ici on a aussi des molécules qui sont en dessous du micromolaire. Voilà, et là aussi, de la même façon que vous pouvez faire du marquage sur les substrats, ici les gens ont fait aussi du marquage sur les inhibiteurs et à nouveau ont pu montrer que ce propargyl diphosphate qui est celui-là, les propriétés donc spectroscopiques et les marquages collent parfaitement bien avec la triple liaison venant se fixer sur un atome de fer. Bon, plus récemment, une deuxième classe d'inhibiteurs ont été proposés. Ici, ce ne sont pas des carbones qui se fixent sur le fer, c'est quelque chose de plus classique, qui sont des molécules avec des pyridines, donc ce sont des azotes. Et donc l'idée, c'est que l'atome d'azote, alors ça, c'est plus classique que des hétéroatomes viennent se fixer sur des atomes de fer, et c'est bien ce qu'on observe ici. Donc vous avez une pyridine ici fixée sur un cluster 4 fer 4 soufre. Ceci a été parfaitement bien démontré par des expériences d'ICE-Core, qui sont de la résonance paramagnétique électronique à deux dimensions. Ça, c'est des études d'inhibition, mais en gros, voilà les chiffres. Vous avez des systèmes qui peuvent aller jusqu'à, vous voyez, une dizaine de micromolaires qui inhibent la moitié de l'activité enzymatique. Voilà, deux systèmes enzymatiques qui ont été très très étudiés au cours de ces dernières années, qui sont absolument essentiels pour la biosynthèse d'isoprénoïdes chez les bactéries et qui sont des cibles thérapeutiques de ce point de vue-là. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment la démarche très, très pointue de la compréhension d'un mécanisme, de la structure, non seulement de la structure, mais aussi du mécanisme enzymatique qui fait intervenir des espèces réactionnelles tout à fait originales, peut conduire donc à une démarche de recherche de médicaments antibactériens, de molécules actives, parce qu'avant que ça devienne des médicaments, il faut pas mal de temps, donc de molécules actives qui agissent directement sur des clusters 4 fer 4 soufre. Bon, comme j'ai un tout petit peu de temps, je voudrais revenir à la biosynthèse de ces clusters fer-soufre. Alors, je le fais d'autant plus volontiers que c'est un travail qui a été mené d'une part au laboratoire avec Sandrine, d'autre part avec Frédéric Barras, le groupe de Frédéric Barras à Marseille, que vous avez entendu, en tout cas ceux qui étaient présents la semaine dernière, pour nous parler de la problématique de la biosynthèse des clusters fer-soufre, et qui est la question suivante. Comment ces deux protéines, ISPG et ISPH, sont maturées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des systèmes spécifiques qui introduisent les clusters 4 fer 4 soufre dans ces protéines? Vous vous souvenez encore une fois, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez que la semaine dernière, on était confronté à un problème de spécificité des maturations. On a dit qu'on avait quelque chose comme 200 protéines fer-soufre chez Escherichia coli, par exemple, Et pourtant, il n'y avait que deux systèmes de maturation, ISC et SUF. On avait bien dit qu'il y avait quelques protéines annexes qui étaient impliquées, mais là, on est confronté à un problème qui est que la nature n'a évidemment pas choisi d'avoir un système de maturation spécifique pour chaque protéine fer soufre, sinon il faudrait 200 maturases pour 200 protéines fer soufre. Et en même temps, comment elle fait avec un nombre très très limité d'usines de fabrication des fer soufre pour les délivrer de façon assez spécifique à une très très grande quantité de cibles. Alors là, on a peut-être le cas d'un système qui est assez spécifique, probablement à cause de l'importance de ces protéines, l'importance fonctionnelle. Et en effet, l'histoire peut être racontée de la façon suivante. ISCA et SUFA sont des protéines qui jouent un rôle très très important dans la maturation des protéines fer soufre, qui étaient connues depuis pas mal de temps parce qu'elles sont dans l'opérant ISC et SUF respectivement. Et puis, nous avions avec Frédéric Barras identifié une troisième protéine qui avait un très grand nombre d'homologies avec ISC et SUFA. Et en particulier avec des cystéines qui probablement fixaient des clusters fer soufre. Alors en effet, cette protéine ERPA, qui ne s'appelait pas ERPA au début, on a pu montrer très clairement par là aussi de la spectro que c'était une protéine qui était capable de fixer un cluster fer soufre. Spectroscopie UV visible, spectroscopie Mossbauer. Ce qu'ont montré les Marseillais, et nous avons un membre éminent ici dans cette salle. Ce qu'ont montré ces Marseillais, c'est que ERPA avait un rôle tout à fait important et qu'on a pu détecter très très rapidement un lien entre ERPA et la biosynthèse de quinone, qui sont des isoprénoïdes. Non seulement ERPA était essentiel pour la respiration, mais on avait pu observer un déficit en quinone dans le mutant ERPA. Donc, tout un tas de mesures ont été faites sur l'ubiquinone, la médaquinone, la déméthylménaquinone, etc. Ici, vous avez l'ubiquinone. Et comme vous le voyez, les taux de ces quinones dans les mutants sont particulièrement bas. Et donc, là, on avait quelque chose de très, très spécifique, ce qui n'est pas le cas de ISCA et SUFA. L'hypothèse de travail a été que peut-être ERPA était un système de maturation très très spécifique de ISPG et de ISPH, qui sont les deux seuls systèmes dans la biosynthèse des isoprénoïdes, dont font partie les quinones et qui évidemment participent à la respiration. Ce sont les deux seuls systèmes dans la voie métabolique qui contiennent des clusters 4 fer 4 soufre. Alors, comme ces systèmes sont essentiels, Frédéric Barras et son groupe ont fait quelque chose qui est absolument remarquable, dont il a parlé la semaine dernière, c'est que pour pouvoir travailler avec des bactéries qui ne contenaient pas des systèmes de maturation de ces deux, de ces deux molécules, isopentényl diphosphate et diméthylallyl diphosphate, ils ont... Et sans lesquels, évidemment, la bactérie n'est pas viable, donc pas étudiable, ils ont réussi à introduire le système de biosynthèse de ces molécules de mammifères, donc la voie mévalonate. Donc vous avez une bactérie qui est capable d'exprimer la voie mévalonate de biosynthèse de l'IPP et du DMAPP, de sorte que si, à un moment donné, il n'y a plus d'activité GCPE ou LIDB, malgré tout, on peut déclencher la biosynthèse de ces molécules qui sont absolument essentielles en ajoutant du mévalonate et en stimulant la voie du mévalonate. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont construit ces souches. Et simplement, vous le voyez ici, en gros, lorsque vous avez... une souche dans laquelle il n'y a plus d'activité ERPA et que vous déclenchez la biosynthèse de la voie mévalonate par l'arabinose et que vous avez de l'acide mévalonique, ça pousse. Dans tous les autres cas, ça ne pousse pas. Donc on avait des indications ici que, en effet, ERPA est impliqué dans la voie de biosynthèse des isoprénoïdes, enfin de déméthylallylphosphate et de l'isopentényl-pyrophosphate. Voilà. Et nous avons pu démontrer par voie biochimique que, en effet, lorsque vous avez un cluster fer-soufre, lorsque vous avez un cluster fer-soufre dans ERPA et que vous faites interagir ERPA avec GCPE, par exemple, enfin ISPG, pardon, à ce moment-là, vous avez transfert du cluster 4-fer-4-soufre dans cette protéine. À ce moment-là, ISPG devient actif. Donc tout cela, à la fois les approches microbiologiques qui montraient que, en effet, la seule façon de réparer l'absence de ERPA, donc de réparer l'absence de ISPG et ISPH, était d'introduire spécifiquement la voie de biosynthèse de diméthylallylpyrophosphate et de l'isopentényl-pyrophosphate par la voie mévalonate, exogène. Et les informations biochimiques que nous établissions nous permettaient de conclure les choses suivantes. Premièrement, ERPA est un nouvel acteur de la biosynthèse des clusters fer-soufre qui joue un rôle très très important parce que il est impliqué dans l'assemblage des clusters d'enzymes qui sont essentiels à la biosynthèse des isoprénoïdes et des quinones, c'est-à-dire ISPG et ISPH. Et donc, ERPA est absolument nécessaire pour la respiration. Ceci est résumé ici. Chez les bactéries, la biosynthèse des isoprénoïdes et par exemple des quinones, dont leur respiration dépend si fortement, est sous le contrôle de deux enzymes cluster 4-fer-4-soufre, ISPG, ISPH, qui sont des cibles thérapeutiques, mais qui sont aussi sous le contrôle d'une protéine ERPA spécifique qui introduit le cluster dans ces protéines et qui pourrait potentiellement être aussi, de ce point de vue-là, une cible thérapeutique. Ceci n'a jamais été exploré. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions pendant que Sandrine se prépare. Merci.